Bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames. Bienvenue à ce rendez-vous de la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Les titres avant de commencer. La Banque centrale du Congo a célébré cette semaine la Semaine mondiale de l'argent. C'était du 10 au 12 mars. Cette journée était placée sous le thème épargne aujourd'hui, sécurité demain. Les actions menées au cours de ces journées étaient plus orientées vers la jeunesse. Nous revenons dans cette émission sur la visite le week-end dernier à Kinshasa du premier directeur général adjoint du FMI. David Lipton s'est dit émerveillé par les efforts du gouvernement congolais dans la stabilisation de l'économie congolaise, quand bien même celle-ci ne profite pas encore à toute la population. Et puis, les activités ont tourné au ralenti cette semaine au port de Boma et de Matadi dans le Bas-Congo. À la base de cette situation, cet arrêt de travail déclenché par la Fédération des déclarants en douane à Boma et à Matadi. Voilà pour le titre que nous allons développer dans cette émission. Notre invité, c'est Gabi Kouba. Il intervient au téléphone. Gabi, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour Daniel et bonjour à tous ceux qui écoutent l'émission sur Radio Okapi.
Et dans ce studio, Daniel Tambizoni, François Kadima pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi.
Panorama économique, le dossier.
Nous allons ouvrir Panorama économique par Kinshasa. La Banque centrale du Congo a sensibilisé cette semaine et pendant 3 jours, soit du 10 au 12 mars, les jeunes à la bonne utilisation, mieux à une bonne conservation de la monnaie.
L'Institut d'émission qui produit 360 millions de billets des banques par année en incinère près de 320 millions chaque année. Pour le gouverneur de la Banque centrale, ceci est une charge importante pour l'économie nationale. Deogracias Mutombo l'a dit à l'occasion de la célébration de la Semaine mondiale de l'argent. Cette semaine est célébrée chaque année au cours de la deuxième semaine du mois de mars. Le thème pour cette année est « Épargne aujourd'hui, sécurité demain ». La Semaine de l'argent a été instaurée dans le but de donner les moyens à la génération future d'agir comme opérateur économique responsable. Suivez plutôt les explications du gouverneur de Deogracias Mutombo.
En ce qui concerne la production de billets de banque, c'est des machines qui coûtent cher, qui doivent être entretenues. Et même la matière première qu'on utilise, c'est une matière qu'on importe. C'est des papiers spécifiques fabriqués à base du coton qu'on importe de l'étranger. Et ça coûte cher également. Et nous ne sommes pas aussi en mesure de produire toute la quantité voulue pour satisfaire la demande de l'économie. C'est pourquoi nous importons même certains billets de l'étranger. Nous avons souligné aux enfants qu'un billet de banque a une valeur pour sa production. C'est 0,4 centimes d'euros par billet, quelle que soit la valeur. Donc pour 1000 billets, ça fait 4 euros. Ça coûte cher. Et chaque année, compte tenu de l'utilisation intensive de billets de banque, la Banque centrale qui produit 360 millions de billets de banque par an détruit à peu près la même quantité, parce que nous détruisons plus ou moins 300 à 320 millions de billets par an. Donc c'est une charge importante, très très lourde. Parce que brûler les billets, ça coûte également beaucoup d'argent. En tout cas, ça coûte plus de 2 millions de dollars par an pour seulement incinérer les billets de banque. Et pour importer ces billets de banque, ça nous coûte entre 25 et 30 millions de dollars américains. On sensibilise d'abord à la valeur des billets de banque, comment on les produit, mais également aux fonctions de la monnaie. Une monnaie doit remplir les 3 fonctions. C'est l'unité de compte, c'est le moyen de paiement et réserve de valeur. Et une monnaie qui ne remplit pas ces 3 rôles n'est plus une monnaie. Et chez nous, la monnaie remplit ces 3 rôles.
Deogracias Mutombo Monanyembo, gouverneur de la Banque centrale du Congo, et le deuxième dossier de la semaine, l'économie de la RDC se porte assez bien à ce jour, même si celle-ci ne profite pas encore à toute la population. Le défi pour le gouvernement serait alors d'augmenter son budget afin d'investir dans l'éducation, la santé et les infrastructures de base.
C'est le premier directeur général adjoint du FMI qui l'a dit au terme de sa mission officielle à Kinshasa du 5 au 7 mars de la semaine dernière. David Lipton, qui a eu des rencontres avec les autorités du pays, estime que les relations entre son institution et le gouvernement congolais sont au beau fixe. On écoute David Lipton.
What I've found here in this visit is that your government has made a remarkable.
Je vais vous dire ce que j'ai constaté pendant ma visite ici. Le gouvernement a considérablement bien réussi à stabiliser l'économie du pays. Il y avait autrefois il y a quelques années, environ une dizaine d'années, une très très forte inflation qui a été véritablement maîtrisée, ramenée à des chiffres très bas. Le taux de change est resté stable ces trois dernières années. La croissance a atteint un taux de 9%. Et même si l'on exclut le secteur minier, la croissance est néanmoins de 4 et quelques pourcents, ce qui veut dire que l'économie est dans une bonne situation.
Justement, puisque vous parlez de cette embellie de l'économie congolaise, le FMI est parmi ces institutions internationales qui publient des statistiques économiques, dont la RDC, mais souvent les Congolais ne sont pas d'accord avec ces publications du FMI parce qu'ils ne ressentent pas les retombées de ces publications. Même lorsque vous parlez de la croissance, la RDC a prévu 9,5% de croissance cette année, mais le FMI parle de 9,1%. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ceci?
Not to get caught up in the numbers, the important thing is that the growth is at a very high level.
Bien, je pense qu'il ne faut pas s'en tenir simplement aux chiffres. Ce qui est important, c'est que la croissance soit à un niveau élevé. Maintenant, votre question montre bien que le pays s'est engagé dans la bonne direction au niveau de ses réformes, parce que, en fait, cette croissance, pour le moment, elle ne bénéficie pas à toute la population. Et il faut absolument élargir les bienfaits de cette croissance à toute la population, et c'est là un défi qui est vraiment considérable. Le gouvernement doit pour cela créer une marge de manœuvre dans son budget de façon à pouvoir construire les infrastructures dont il a besoin, de façon à pouvoir investir dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Ce sont des choses qui ne vont pas se faire du jour au lendemain. Ça représente un défi véritablement important qui est celui de transformer en fait la richesse minérale de ce pays en une prospérité partagée par tous. C'est un grand défi et nous sommes prêts au FMI à aider le pays à le relever.
Troisième dossier de Panorama économique cette semaine nous conduit dans le Bas-Congo. Bas-Congo où nous retrouvons Amatadi Guiroje Yapala. Guiroje, bonjour.
Bonjour Daniel Tambizoni.
Avec vous, nous allons faire le point sur la situation qui a prévalu dans cette province aussi économique de la RDC. Nous avons parlé de la paralysie des activités dans le port de Matadi et de Boma. Vous voulez nous rappeler brièvement ce qui s'est passé à Matadi cette semaine et dans le Bas-Congo dans les installations portuaires?
Écoutez, Daniel, selon Julien Toula, il est président de la Confédération des déclarants en douane, il y a plusieurs problèmes qui avaient perturbé pratiquement le travail dans les installations portuaires du Bas-Congo. Pour faire court, primo, d'abord en ce qui concerne les guichets uniques, les déclarants déplorent le fait que la DGDA utilise deux procédures de contrôle de marchandises, à savoir bivac et circuit orange. Or, selon les déclarants, la procédure de circuit orange ne peut être utilisée que si le processus bivac expire. Et il expire en fait au mois de novembre prochain. Ces déclarants considèrent donc qu'il s'agit d'une violation du code de douane. En passant, Daniel, notez que le circuit orange est mis en pratique au port de Matadi seulement depuis l'arrivée du nouveau directeur provincial de la DGDA Bas-Congo, affecté donc dans cette province. Deuxième plainte, c'est la question de l'évacuation d'office des conteneurs. À ce jour, selon les déclarants, la DGDA ne respecte plus le délai d'évacuation des conteneurs au port de Matadi. Dès qu'il est déchargé, aussitôt il est acheminé vers un EPC, un entrepôt public concédé. Alors, les déclarants se plaignent car il y a eu une double taxation du conteneur, et la durée qu'un conteneur doit faire au port est de 15 jours. S'il n'est pas sorti, la DGD a toute la latitude de l'évacuer partout. Ils évoquent toujours le code de douane. Enfin, ils parlent d'une discrimination en ce qui concerne l'entrée des véhicules au port international de Matadi. Il faut corrompre, selon eux, pour que le véhicule entre au port. Ils pointent du doigt la DGDA et la SCTP ex-ONATRA.
Beaucoup de plaintes en même temps, mais que dit la DGDA qui est plus taxée dans ses accusations?
Nous étions à deux reprises, Daniel, au bureau du nouveau directeur de la DGDA, Jean-Baptiste Kongolo Kabila. Ce dernier est clair et ferme. Il ne fait qu'appliquer la loi, a-t-il dit. Pour lui, il n'y a pas de débat, il ne se réfère qu'à sa Bible, qui est le code de douane. En ce qui concerne le circuit orange, par exemple, les bivacs, il existait déjà depuis longtemps et lui ne fait qu'appliquer, comme je l'ai dit. Il a également aussi affirmé sa ferme volonté de combattre la corruption, selon lui, qui gangrène ce milieu de douane. De son côté, Dieudonné Kanshembou, président national de la Fédération des petites et moyennes entreprises du Congo en séjour à Matadi, s'est également exprimé à ce sujet en déclarant que le port de Matadi n'est pas un port de stockage, mais plutôt de transit. Les conteneurs ne peuvent pas traîner sur place. D'ailleurs, dans d'autres ports africains et ailleurs, les conteneurs, dès qu'ils sont déchargés du navire, ils sont aussitôt évacués hors du port. À ce jour, a-t-il dit, le port de Matadi est engorgé. Cette situation a des conséquences également sur le port de Pointe-Noire, précisément dans la partie, dans le quai réservé aux conteneurs qui doivent arriver au Congo. Les conteneurs sont pleins parce que le port de Matadi, lieu de destination finale, est engorgé. Donc, il y a aussi nécessité et urgence d'évacuer les conteneurs pour libérer les espaces afin de permettre à d'autres conteneurs d'arriver. Les importateurs ou commerçants ont donc une très grande part de responsabilité dans cette situation, selon Dieudonné Kassembo.
Toutes ces plaintes, Guy Roger, nous savons, avaient amené, conduit à un arrêt de travail. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, quelle est la situation présentement?
Alors qu'il est, la grève a été levée, hein, les négociations se poursuivent autour du gouverneur de province pour justement aplanir les divergences dans ce secteur de douane au Bas-Congo. Mm-hmm. C'est donc une situation que nous sommes en train de suivre de près, Daniel.
Il y a eu également des manques à gagner, s'il faut le signaler un peu.
Ah, oui, absolument. Hein, le manque à gagner, il y en a eu à tous les niveaux, hein, selon les importateurs, les déclarants, etc. Mais il est difficile à l'heure qu'il est de les chiffrer.
Merci beaucoup, Guy Roger Niapala, depuis Matadi. Très bon week-end à vous, à Matadi, à tous ceux qui nous écoutent la Radio Kapi.
Merci à vous également.
Voilà, très bon week-end à Matadi. Et nous retournons dans ce studio où nous allons retrouver en ligne de téléphone notre invité, Gabi Kouba, aussi journaliste, mais spécialiste dans les mines. Mais cela n'empêche, Gabi, aujourd'hui, vous êtes là, Gabi?
Oui, je suis là, je vous écoute parfaitement.
Ok, nous allons prendre une à une ces infos de la semaine. D'abord, la semaine de l'argent. Il faut bien conserver l'argent, il faut bien manipuler l'argent, puisque le gouverneur de la Banque Centrale le dit. La Banque Centrale produit 360 millions de billets par année. Et à côté de cette production, il y a une incinération, une destruction de 320 millions de billets de banque. Et tous ces billets-là, pour imprimer l'argent, ça demande l'argent et une sensibilisation à une bonne conservation, à une bonne manipulation de l'argent. Votre commentaire?
Oui, merci beaucoup. Je tiens à féliciter le gouverneur de la Banque Centrale, Deogratias Mutombo Mwananyimo. Je pense qu'à l'époque de son prédécesseur Jean-Claude Massangou, on avait initié une campagne pour la protection de nos billets des banques.
Simbanga bien.
Ouais. Oui. La production de ces billets demande également de l'argent parce que l'État dépense beaucoup. Pour produire les billets des banques, ça demande qu'on importe les machines, ça demande qu'on importe les papiers, ça demande qu'on importe d'autres produits chimiques, les déplacements de tous ceux qui sont impliqués dans les opérations de la production des billets des banques, est aussi engage également d'énormes dépenses pour le gouvernement de la République et pour l'État. D'où il faut protéger en tout cas les billets des banques. Mais la bonne monnaie chasse souvent la mauvaise monnaie. Regardez comment nous protégeons les dollars américains, par exemple, qui est la monnaie aujourd'hui la plus utilisée au Congo, ou encore l'euro. C'est-à-dire une moindre fissure entraîne une réduction sensible.
On
applique
ouais.
également le même principe pour l'utilisation du franc congolais et ça serait en tout cas une bonne décision pour que nous puissions protéger l'argent. Et pour cela, je crois que le gouverneur de la Banque Centrale du Congo a encore du travail à faire avec sa cellule de communication pour arriver à un bon usage du franc congolais. Quant au thème de cette année,
épargne aujourd'hui, sécurité demain.
Et sécurité demain, je crois que le thème est assez évocateur et flatteur à la fois. Parce que qui dit épargne, et vous avez vu l'intense activité qui a été déployée pour la sensibilisation de la jeunesse autour de ce thème. Mmh. C'est lui qui n'épargne pas aujourd'hui. Alors, aura des difficultés pour vivre demain.
Parce que c'est pourquoi aujourd'hui, dans la fonction publique,
30 ans, 35 ans, et que demain, quand vous allez atteindre l'âge de la retraite, vous n'avez rien épargné, en ce moment-là, vous serez en difficulté. Mais que faut-il épargner? C'est ça la grande question. Et comment le faire? Il faut qu'on ait des banques viables. La plupart des banques qui sont ici avec nous ne sont pas des banques assez viables. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de banques sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, mais combien de banques nous donnent vraiment la crédibilité et l'assurance d'épargner. Il y a quelques temps, vous avez vu comment nos compatriotes ont souffert avec la banque congolaise, avec Deutsche Bank, comment les gens ont perdu l'argent.
Mais quand même, Gabi,
cela pousse la plupart des Congolais à la thésaurisation parce que les gens n'ont plus confiance aux institutions bancaires.
Mais quand même, les choses ont évolué.
Qu'on a connu depuis l'époque du maréchal Mobutu.
Les choses ont quand même évolué aujourd'hui, Gabi, hein, quand même de banques où il faut la sécurité, elle est là, la stabilité de l'économie, quand même, elle est là, le taux de change qui ne bouge pas, je pense, c'est des choses qui vont dans le sens positif quand même. Aujourd'hui, il faut plutôt encourager l'épargne.
Oui, on doit encourager l'épargne. Je ne suis pas contre ça, d'ailleurs.
La grande question, c'est qu'est-ce qu'il faudra épargner, parce qu'on sait que les salaires sont modiques.
Je me pose cette question. Parce que pour épargner, il faut avoir des revenus. Alors, pour avoir des revenus, il faut du travail. Et lorsque vous regardez la situation, par exemple, sur le marché de l'emploi, chaque année au Congo, les statistiques qui viennent de la Banque centrale du Congo et elle-même, ou encore de l'Office national de l'emploi, disent tout. Il n'y a presque pas sur ces marchés, la RDC est totalement défaillante parce qu'il n'y a pas d'emploi. Pour que vous ayez l'argent, il n'y a pas seulement que l'emploi, même dans le domaine des business. Aujourd'hui, les jeunes gens, quand vous regardez à travers le monde, vous avez des jeunes gens qui sont devenus des grands entrepreneurs. Ce qui n'est pas le cas au Congo, les banques n'accordent aucune facilité aux opérateurs économiques, surtout les jeunes. Elles exigent d'abord des garanties que les jeunes ne peuvent pas présenter, et pour des initiatives. La création du guichet unique est une bonne initiative pour réduire toutes les formalités en vue de créer l'entreprise. Mais une entreprise ne se crée pas seulement à partir de l'obtention des documents. Il faut avoir un capital,
il faut avoir
du matériel, il faut avoir des fonds, il faut avoir des capitaux. Tout ça, ce sont des opérations complexes qui ne favorisent pas l'épargne aujourd'hui. Ceux qui doivent épargner, c'est peut-être que les parents pour assurer l'avenir de leur postérité, mais les parents sont aussi butés à ce problème. Ceux qui travaillent, prenons les cas par exemple de la fonction publique, avec la modicité
du salaire,
oui. Il est difficile d'épargner aujourd'hui. Les gens vivent presque au quotidien à cause de la qualité de la vie. Vous n'avez pas la possibilité d'épargner. Pourtant, c'est une bonne initiative pour l'avenir. L'avenir se prépare déjà aujourd'hui. Concernant les dépenses, en ce qui concerne par exemple la production de l'argent, plus de 35 millions de dollars par an. C'est énorme pour l'État. Ça coûte beaucoup à l'État.
Et c'est pourquoi on doit avoir une bonne pratique, on doit avoir de l'égard sur la monnaie nationale, bien la protéger. Et dans ce sens-là, on aura moins de billets à incinérer chaque année.
Oui, il faut protéger la monnaie nationale, mais il faudrait également passer à cette expression que Laurent Désiré Kabila avait prêchée à l'époque, la dédollarisation. Il faut accorder une forte valeur à la monnaie nationale par rapport à la monnaie étrangère. Si vous allez dans un shop ou dans un magasin, voire même dans certaines institutions de la République, on parle plus du dollar que du franc
congolais.
Le fait de fortement dollariser l'économie diminue fortement également la valeur de la monnaie nationale. C'est l'une des mesures que
la nouvelle réglementation d'échange publiée par la Banque centrale est arrivée
en 2003, c'était la dédollarisation. Et Matata a travaillé. Malheureusement, on n'est pas allé jusqu'au bout.
Ok, Gabi, nous n'avons pas tout le temps. Hein. Nous allons être assez succincts parce qu'il y a d'autres sujets qui nous attendent. Peut-être vous allez placer rapidement un mot sur la visite du premier directeur général adjoint du FMI qui était de passage à Kinshasa. Et vous avez également suivi l'actualité comme nous. Sa déclaration, son satisfecit de la façon dont le gouvernement a stabilisé l'économie congolaise.
Oui, nous devons être prudents. Les éloges du responsable du Fonds monétaire international envers le gouvernement congolais sont justifiés. C'est vrai, la stabilité du cadre macroéconomique est là depuis quelques temps. Et le taux de change est stable, l'inflation a été maîtrisée. Mais là où je reste un peu sur ma soif en ce qui concerne la production. Une économie doit être basée sur la production. Or, l'économie congolaise est basée sur l'import et l'export. Pourtant, à l'intérieur du pays, tous les secteurs de la vie peuvent être rentables. Et vous avez un secteur porteur de croissance, par exemple. On peut justifier cet optimisme du gouvernement, rien dans les secteurs miniers, où la RDC a battu les records. On est arrivé à 1 million de tonnes de cuivre pour l'année passée, c'est une bonne chose. Mais le cuivre produit au Katanga, est-ce qu'il a eu des effets positifs sur l'économie congolaise, sur la vie des nationaux? La qualité de la vie des Congolais reste encore à désirer. La plupart des entreprises aujourd'hui ont des sérieux problèmes au Katanga à cause du déficit énergétique et criant. Ils ne savent plus pourtant, c'est l'une des mesures du code minier ou encore l'une des mesures du gouvernement de ne pas exporter des minerais à l'état brut. Mais par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au déficit énergétique, on exporte des minerais bruts, ce qui veut dire qu'il y a un manque à gagner énorme pour la République. L'État perd beaucoup d'argent à cause du déficit énergétique.
La production interne, c'est ce que vous soutenez. Merci. Le temps de souffler, de prendre la suite de Panorama économique.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres infos de la semaine, en bref, à Bukavu dans le Sud Kivu, l'Alliance des femmes pour le développement et la promotion des valeurs humaines a clôturé lundi son programme de distribution des microcrédits rotatifs. Selon le responsable de cette organisation, 150 femmes vulnérables et survivantes des violences ont bénéficié d'un appui financier pour renforcer leurs activités commerciales. Ceci entre dans le cadre de leur projet d'autonomisation de la femme.
Parlons encore de l'argent, toujours dans le Sud Kivu, une autre coopérative d'épargne et de crédit Nyawira a organisé lundi à Bukavu une journée porte ouverte. Le gérant de cette institution de microfinance a informé que le but de cette activité est de permettre aux femmes d'ouvrir des comptes et d'être renseignées sur les possibilités d'accéder au crédit.
Le gouvernement provincial du Katanga a décidé, toujours lundi, de réduire à 1% le taux de la taxe de consommation de 5% appliquée à Interlaken. Cette mesure fait suite à la demande d'allègement fiscal introduite par cette société et est relayée par la FEC Katanga. Pour Interlaken, le taux de 5% de la taxe de consommation sur le ciment produit localement pèse lourdement sur le prix de revient. Et pour le gouvernement provincial, cette mesure sera généralisée à toutes les autres unités de production de ciment à travers la province du Katanga.
Toujours à l'est, nous allons nous rendre à Ituri où la Fédération des entreprises du Congo a financé un projet d'éclairage autour du marché central de Bunia en province orientale. Cette initiative vise à sécuriser ce tronçon pour permettre aux opérateurs économiques de vendre même pendant la nuit. Ces travaux, qui vont durer 45 jours, sont réalisés depuis une semaine par la Sokimo grâce au fonds de la rétrocession du gouvernement provincial à la corporation de commerçants. Peut-être vers la solution durable dans les conflits récurrents qui opposent la société Mining and Progressing Congo MPC aux exploitants artisanaux sur les sites miniers de Bissié en territoire de Walikale, nous sommes au Nord Kivu. Une réunion urgente a été convoquée lundi à Kinshasa par le ministre de Mines. Elle a porté sur l'analyse de la situation sécuritaire préoccupante à Bissié et les pistes des solutions. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, les notables de cette province ainsi que les élus nationaux de Walikale ont pris part à cette rencontre.
Panorama économique, matières premières.
Les matières premières dans Panorama économique nous conduisent cette semaine au Katanga où le ministre du Plan a menacé de sanctionner les entreprises minières qui refusent de fournir à l'ITIE toutes les données nécessaires.
Olivier Kamitato, à mission dans cette province, avait également souligné le fait que les Katanga reçoivent mensuellement une redevance minière forfaitaire des millions de dollars américains, soit 12 millions de dollars par an. Avec la mise en place du découpage territorial, le ministre du Plan explique la vision du gouvernement pour la gestion de cette redevance minière. Olivier Kamitato est au micro des Colin Djuma Moussopo.
Nous allons d'abord examiner quelles sont les données, nous allons voir quelles sont bien entendu les difficultés à aborder cette question et nous allons nous concerter. Et je crois que très rapidement nous arriverons à des solutions. Vous le savez, le découpage, maintenant le président de la République a promulgué la loi sur le découpage, la loi, c'est une loi de programmation qui fixe les étapes, et bien à chaque jour suffit sa peine. En ce qui concerne la redevance, et bien des commissions vont être mises en place, elles vont discuter des actifs, des passifs de chaque province, de leur capacité, elles vont essayer de se répartir en termes d'administration. Et puis nous verrons progressivement comment nous pouvons avancer pour doter ces provinces des ressources qui sont indispensables pour que l'autorité de l'État puisse s'y exprimer, mais que la République démocratique du Congo soit attractive aux investissements.
Tout en reconnaissant que la province du Katanga reçoit ce montant, le ministre provincial des Finances, Christian Mwantou, indique que la province produisant mensuellement 11 millions de dollars américains, conformément à la loi, elle devrait plutôt recevoir 5 millions de dollars américains. Et c'est par là que nous allons terminer Panorama économique rapidement, Gabi, pour la suite de cette émission, surtout que nous arrivons à la fin, il ne nous reste plus que 2 minutes. Un mot de la fin, les matières premières, vous avez suivi, nous étions au Katanga où le ministre de Plan a séjourné, mais vous savez aussi qu'au Katanga, il y a un nouveau projet qui venait de découvrir un gisement de cuivre. Vous qui êtes dans les ressources naturelles, vous avez eu de la matière.
Ah oui, Daniel, permettez-moi de faire un pas en arrière, rapidement.
Rapidement.
Oui, rapidement. Vous avez vu que les félicitations, les fleurs qui nous ont été jetées par les Fonds monétaires internationaux demandent encore que le gouvernement investisse dans d'autres secteurs, dont la santé, l'éducation, les infrastructures. Donc ça ne sert à rien de construire les infrastructures de prestige qui n'ont pas de portée économique. Il faut que les routes, par exemple, les aéroports aient une portée économique partout où on les construit. Et concernant, par exemple, concernant un autre problème, c'est le problème des bifiers. Je reviens de la carrière des bifiers dans les territoires de Walikale au Nord Kivu.
Au Nord Kivu, oui.
J'ai travaillé sur ce dossier depuis des années. En tout cas, MPC, l'entreprise sud-africaine de Christopher, qui est là pour l'exploitation de la cassiterite, mais les creuseurs artisanaux envahissent des concessions octroyées aux entreprises. Pourquoi? Parce que les entreprises, parfois, obtiennent des titres dans les concessions exploitées jadis par les creuseurs artisanaux. Mmh. Et on leur dit aller vers les zones d'exploitation artisanale. Pendant que les études n'ont pas été menées, ça n'a pas été prouvé, les gisements ne sont pas suffisamment minéralisés, et là, les creuseurs artisanaux viennent envahir des carrés miniers qui appartiennent aux entreprises qui ont tous les documents, donc ça pose un problème. Je crois que le gouvernement est conscient de la gravité de la situation. On doit travailler, appuyer sur l'accélérateur pour trouver une solution durable à ce problème. Concernant l'opacité, par exemple, des mines, l'IPIE, Matt Doumba, le coordonnateur de l'initiative pour la transparence des industries extractives, c'est quelqu'un qui a toujours eu l'obligation, qui a toujours appliqué l'obligation des réserves. Mais il y a peu, il est sorti de sa réserve pour dire, voilà, ce n'est pas comme ça. Donc, l'opacité dans les entreprises traduit concrètement un climat de corruption. Une entreprise qui ne communique pas, une entreprise qui ne communique pas, pourtant, toutes les régies financières, les procédures imposent la transparence aux entreprises. Mais quand vous avez payé, là c'est difficile et c'est très facile de publier ce que vous avez payé. Mais pourquoi les entreprises sont-elles réticentes lorsqu'il faut publier ce qu'ils ont donné à l'État? Si vous avez donné et que vous avez des preuves, et il faut les donner, il faut les publier,
oui. C'était juste pour vous compléter. Vous avez payé et vous publiez.
Ah voilà, publier, c'est que vous payez. Mais par rapport à le dernier sujet peut-être, la grande découverte de Kamoa, c'est une grande firme canadienne, Ivanhoe Mines, qui a fait une découverte pendant que les estimations, j'allais dire, la plupart des entreprises qui viennent au Congo, surtout dans les domaines du cuivre et du cobalt, se déversent souvent sur les vestiges de la gécamine à cause de l'incertitude en ce qui concerne la recherche qui impose énormément de moyens. Et Ivanhoe a pris ce risque-là d'aller explorer, et il a exploré une mine à Kamoa dont les réserves sont estimées à 760 millions de tonnes de cuivre. Donc on va dépasser peut-être le Chili et d'autres pays producteurs du cuivre. Maintenant, on va voir le genre de partenariat qui sera conclu entre le gouvernement et cette entreprise. Quelles sont les retombées au niveau de la population? Quels sont les avantages que la RDC peut tirer de cette découverte? Je pense qu'il faudrait également encourager d'autres.
Merci Gabi Kouba de tous ces commentaires et analyses sur l'actualité de la semaine. Ainsi s'achève Panorama économique que je vous convie à retrouver sur la toile www.radiookapi.net. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.